à la recherche de la paix. Un programme de la Voix de la Charité présenté par sœur Brigitte May, fondatrice de la maison de prière à Banin, au Liban.
Chers auditeurs, bonjour. Voici la surprise. Je cède maintenant la parole au Père Patrick Balan, fondateur de la Fraternité Marie-Gabriella.
Sœur Brigitte, merci de m'avoir invité à cette émission. Et je suis très heureux en tant que prêtre suisse habitant la Belgique, donc venant de l'Europe, de venir pouvoir parler à nos chers amis libanais. J'ai eu la chance d'écouter l'émission que vous avez faite la semaine dernière et je vous remercie d'avoir présenté qu'avec autant de talent, d'exactitude et de profondeur spirituelle ce qu'est la Fraternité Maria Gabriella et d'une part la figure de cette bienheureuse Maria Gabriella et d'autre part l'esprit, le fondement spirituel de la charte de la Fraternité Maria Gabriella. Alors je crois que ce qui est important, c'est de développer durant cette émission pour nos amis libanais le lien, comme vous l'avez déjà légèrement évoqué la semaine passée, entre prière pour l'unité et dans la deuxième partie, ce très beau texte que vous avez choisi pour parler de cet agir de la paix dans notre âme et cette rencontre de la paix dans nos âmes et de cette rencontre à la fois de nos âmes dans cette dynamique de la paix que nous donne le Christ. Prier pour l'unité est une grande responsabilité de la part de tout chrétien. Et c'est bien pourquoi que dans son homélie pour le 40e anniversaire du décret sur l'œcuménisme, le pape Jean-Paul II ne pouvait que rappeler avec force que prier pour le rétablissement de la pleine communion de l'Église nous concerne tous. Je le cite. « L'effort pour rétablir la communion pleine et visible entre tous les baptisés ne s'applique pas seulement à certains experts en œcuménisme. Il concerne tout chrétien, de tout diocèse et de toute paroisse, de toute communauté dans l'Église. Tous sont appelés à assumer cet engagement et personne ne peut s'abstenir de faire sienne la prière de Jésus afin que tous soient un. Tous sont appelés à prier et à travailler pour l'unité des disciples du Christ. » C'est une homélie qu'il a prononcée le samedi 13 novembre 2004. J'ose dire que je suis véritablement ému de m'adresser par le biais des ondes à nos amis libanais, qui connaissent depuis bien trop d'années, dans leur histoire contemporaine, que division, faction, guerre, souffrance, dans un contexte régional pluriculturel, et il faut bien le dire aussi intérieur. Cet appel à l'unité, à vivre en communion, à l'exemple et même au cœur de la communion d'amour qui lie le Père et le Fils, me semble extrêmement important, voire vital pour ce beau peuple. Cet appel nous a déjà été donné par le Concile Vatican II, vous l'avez signalé la semaine passée, je me permets de le reprendre, c'est le décret de 1964. À l'époque, le Liban était comme la Suisse du Moyen-Orient, expression qui me touche, moi qui suis citoyen de ce beau pays. Et pourtant, cet appel résonne comme un avertissement. Je cite « Une seule et unique Église a été instituée par le Christ Seigneur. Et pourtant, plusieurs communions chrétiennes se présentent aux hommes comme les véritables héritières de Jésus-Christ. Tous, certes, confessent qu'ils sont les disciples du Seigneur, mais ils ont des attitudes différentes, ils suivent des chemins divers, comme si le Christ lui-même était partagé. Il est certain qu'une telle division s'oppose ouvertement à la volonté du Christ. Elle est pour le monde un objet de scandale et fait obstacle à la plus sainte des causes, la prédication de l'Évangile à toute créature. C'est le décret sur l'œcuménisme Unitatis et Redintegratio. Le texte de l'introduction. Si nous avions plus vite mis en pratique ce décret, nous aurions peut-être appris à vivre réellement cette communion visible et concrète, qui donne alors de construire des ponts plus solides entre les cultures et les religions, et d'assurer la paix au pays. Il n'y a pas de fatalité, parce que Dieu lui-même ne connaît pas ce mot. Et c'est parce qu'il croit justement tellement en la possibilité, en la possible conversion de l'homme, qu'il a envoyé son Fils mourir sur une croix. La mort et la résurrection du Christ sont à l'extrême opposé de la fatalité. La mort et la résurrection du Christ sont l'expression d'une dynamique de paix, de joie, afin que votre joie soit parfaite, dit le Christ dans les Écritures. Priez pour l'unité, mes chers auditeurs, l'unité de la personne, l'unité de la famille, de son pays, c'est véritablement construire la paix. C'est oublier un peu ses petits intérêts personnels pour vivre dans une dynamique de la communion, c'est-à-dire du partage et du respect de l'autre, quel qu'il soit. Il est vrai que cela demande une conversion, et ce même décret de Vatican II nous le redit, je cite, « Il n'y a pas de véritable œcuménisme sans conversion intérieure. » En effet, c'est du renouveau de l'âme, du renoncement à soi-même et d'une libre effusion de charité que partent et mûrissent les désirs de l'unité. Il nous faut par conséquent demander à l'Esprit-Saint la grâce d'une abnégation sincère, celle de l'humilité et de la douceur dans le service, d'une fraternelle générosité à l'égard des autres. « Je vous conjure, dit l'apôtre des nations, moi qui suis enchaîné dans le Seigneur, de marcher de façon digne de la vocation qui était départie en toute humilité et douceur, vous supportant les uns les autres avec patience et charité, attentifs à conserver l'unité, l'esprit, le lien de la paix. » C'est tiré de l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4, les versets 1 à 3. Oui, je crois véritablement que par une humble prière, nous avons à demander pardon à Dieu pour trop souvent penser à des intérêts qui ne fait que nous arrivons qu'à nous entre-déchirer. Souvenons-nous tous que nous favoriserons, nous chrétiens, un véritable vivre en communion, source de paix, bien plus que nous le réaliserons dans la mesure où nous nous appliquerons à vivre plus purement selon l'Évangile. Plus étroite en effet sera notre communion avec le Père, le Verbe, l'Esprit-Saint, plus nous pourrons rendre visible et viable la fraternité mutuelle par-delà les différences culturelles et religieuses. Oui, chers auditeurs, je me permets de vous le redire. Cela demande une conversion du cœur. Cela demande de croire en la dynamique de paix de celui qui est la paix. Il n'y a pas que la fatalité des armes et du sang versé. Il y a une dynamique de vivre ensemble, de paix, de justice, de respect mutuel, mû par les valeurs évangéliques. Cela demande, oui, une conversion du cœur, une autre façon de penser, d'agir. C'est certes difficile, tant règne la défiance et beaucoup de fantasmes, durs à la réalité de celui qui habite le quartier d'à côté. Mais c'est le seul chemin qui conduit à la paix. Lorsqu'il était le cardinal Ratzinger, il osait affirmer ceci dans le décret qu'allait faire courir par ce vlement d'encre, « Dominus Iesus, unicité et unité de l'Église ». C'est le point 16. Je cite, « Le Seigneur Jésus, unique sauveur, n'a pas simplement établi une communauté de disciples, mais il a constitué l'Église comme mystère de salut. Il est lui-même dans l'Église et l'Église est en lui. C'est pourquoi la plénitude du mystère salvifique du Christ appartient aussi à l'Église, inséparablement unie à son Seigneur. et comme la tête et les membres d'un cœur vivant sont inséparables mais distincts, le Christ et l'Église ne peuvent être ni confondus ni séparés et forment un seul Christ total. Compte tenu de l'unicité et de l'universalité de la médiation salvifique de Jésus-Christ, on doit croire fermement, comme vérité de foi catholique, en l'unicité de l'Église fondée par le Christ. Tout comme il existe un seul Christ, il n'y a qu'un seul corps, une seule épouse, une seule et unique Église catholique, au sens universel bien entendu, et apostolique. Cet extrait de Dominus Iesus affirme une vérité de foi. Et c'est justement parce qu'elle est une vérité de la foi qu'elle engage tout chrétien, membre de ce corps, de participer pleinement à cette vie de communion, source de paix. À chaque Eucharistie, le Christ lui-même nous donne par le don de son corps et de son sang, précieux, sa paix. Qu'en faisons-nous? Prier pour l'unité n'est pas une option préférentielle, mais fait partie intégrante de la vie de tout chrétien. Accepter de vivre en une Église divisée, sans en être autrement alarmé, c'est accepter que perdure une situation où domine le contraire de la communion, c'est-à-dire rivalité, faction et guerre. Prier pour l'unité, c'est faire barrage, justement, à toute velléité de guerre et interpeller en leur conscience même ceux qui la veulent à un chemin de paix. Pas seulement politique, paix bien fragile, mais à un chemin de paix dont la source, la base, est celui qui est la paix. On ne s'est pas assez rendu compte de la portée du geste de Jean-Paul II de demander pardon à l'occasion du jubilé de l'an 2000. Pour la première fois, l'Église, par la bouche du Saint-Père, demandait pardon. En cela, elle est sainte. Voilà un extrait de cet acte pénitentiel qui a été célébré en la basilique Saint-Pierre de Rome durant le carême 2000. Je cite simplement la prière que le Saint-Père a prononcée dans la troisième partie de toute cette grande célébration qui s'appelait « Confession des péchés qui ont compromis l'unité du corps du Christ ». Je cite le Saint-Père. « Père miséricordieux, à la veille de sa passion, ton Fils a prié pour l'unité de ceux qui croient en lui. Mais à l'encontre de sa volonté, ils se sont opposés et divisés. Ils se sont condamnés mutuellement. Et ils ont combattu les uns contre les autres. Nous invoquons avec force ton pardon, et nous te demandons de nous donner un cœur repentant, afin que tous les chrétiens réconciliés avec toi et entre eux, ne formant plus qu'un corps et qu'un esprit, puissent revivre la joyeuse expérience de la pleine communion par Jésus le Christ, notre Seigneur. » Fin de citation. Très grand texte, très grand moment, peut-être l'un des plus grands moments de l'histoire de l'Église contemporaine, de cette Église qui demande pardon. Le faisons-nous à l'échelle des diocèses, des paroisses, des communautés, en quartier, en famille, dans les clans? Il n'y a pas de conversion du cœur, de prière pour l'unité sans acte pénitentielle. Voilà pourquoi nous avons à vivre en premier lieu une véritable conversion. Et quelle est la dynamique de la démarche vers un vivre en communion entre chrétiens pour être de véritables témoins et artisans de paix. Les débuts de l'œcuménisme contemporain, nés par la démarche de l'abbé Paul Couturier, sont marqués du sceau de la conversion. L'arrivée à Lyon de réfugiés russes orthodoxes dans les années 30 qui fuyaient le bolchevisme engendre chez lui une véritable conversion. En décidant de se rendre pour un mois à Metz en Belgique dans une abbaye bénédictine, il va dévorer l'œuvre du cardinal Mercier, un des grands pionniers de l'œcuménisme contemporain, et méditer longuement son testament spirituel Pour s'unir, il faut s'aimer. Pour s'aimer, il faut se connaître. Il faut aller à la rencontre l'un de l'autre. On ne peut vivre cette vérité fondamentale sans la nourrir de la prière, d'une prière qui naît du cœur de l'homme, afin qu'il se puisse faire l'écho de la prière du Christ en Jean 17, « Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, eux en nous, un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » La communion précède la mise en action de ce précepte évangélique. En écrivant cette prière dans les années 50, l'abbé Paul Couturier nous montre comment nourrir cette prière et cette mise en acte. Je cite « Dans ma prière passe vitalement leur prière, celle de tous les autres chrétiens. Je n'ai qu'à laisser faire, à dire oui. Et pour mieux faire, ce mieux où nous devons toujours tendre, je n'ai qu'à réaliser, c'est-à-dire à réfléchir au secret du cœur, à tout ce flux qui passe en moi et monte vers Dieu quand je prie, à rendre plus vif, en le frappant de ma personnalité morale, ce courant vers Dieu venu des profondeurs les plus lointaines de l'humanité. En réciprocité, je prie en chacun des autres. Ma prière pour l'unité sort de mon cœur, s'infiltre par la circulation spirituelle du corps mystique dans la prière de mon frère, peut-être bien éloigné de moi par le contenu de ses croyances. Mais s'il est plus près de Dieu que moi, c'est dans sa prière que ma pauvre prière trouvera sa meilleure efficacité, son plus rapide envol vers l'Éternel. Fin de citation. La prière se fait réellement communion. De cette communion qui ne peut regarder l'autre comme inférieur ou supérieur, mais comme fils, une fille de Dieu, dont je ne sais rien, si ce n'est que peut-être la prière rend plus rapidement son envol vers Dieu. Jean-Paul écrivait dans la lettre apostolique du 6 janvier 2001, « Novo Milieno Ininuente » au point 48, le chemin œcuménique reste ardu, peut-être long, mais ce qui nous anime, c'est l'espérance d'être guidé par la présence du ressuscité et par la force inépuisable de son esprit, capable de surprises toujours nouvelles. Oui, le chemin vers un vivre en pleine et concrète communion, pour nous chrétiens, est un vivre en espérance contre toute fatalité destructrice. C'est-à-dire vivre d'un constant retour à la source, ce lieu où je me laisse visiter par notre Dieu qui, en son Fils, ne fait que nous donner sa paix. À Kiev, dans son homélie prononcée le 25 juin 2001, le pape Jean-Paul II s'est écrié « Ut unum sint ». Nous voulons nous unir à la prière du Seigneur pour l'unité de ses disciples. C'est une prière incessante qui s'élève des cœurs humbles et disponibles pour écouter, penser et œuvrer avec générosité afin que puisse réaliser le désir du Christ, de cette terre sanctifiée par le sang d'une multitude de martyrs. J'élève avec vous ma prière au Seigneur afin que tous les chrétiens redeviennent un selon le désir du Christ au Cénacle. Puissent les chrétiens du troisième millénaire se présenter au monde avec un seul cœur et une seule âme. Je confie ce désir ardent à la Mère de Jésus, qui depuis le début prie avec l'Église et pour l'Église, qu'elle nous soutienne comme au Cénacle par son intercession, qu'elle nous conduise sur la route de la réconciliation et de l'unité, pour que sur toute la terre, les chrétiens puissent finalement annoncer ensemble Christ et son message de salut aux hommes et aux femmes du nouveau millénaire. » Fin de citation. Est-ce que ce discours n'était-il pas écrit pour le Liban? Comment répondre à ce cri? À tous ces cris lancés durant 25 ans de pontificat, sans prendre le chemin de la conversion, afin de ne jamais s'endormir sur une espèce de « à quand la prochaine bombe ? À quand le prochain attentat ? À quand la prochaine guerre? Non et non, car cela contredit ce qui est communion, ce qui est un, ce que rien ne peut diviser, si ce n'est les tentatives du diviseur par excellence, le diabolos, du verbe grec diabolo, qui signifie séparer, diviser. Le cardinal Casper, président du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens que je connais bien, écrit dans son livre « Sacrement de l'unité, Eucharistie et unité », c'est aux éditions du CERF 2005, il met en évidence le fruit de la conversion qui est l'esprit de la communion, une communion dans la clarté, la cohérence. À cet égard, un ami dominicain me disait « Unité et diversité sont nées de Dieu, la malice des hommes les a opposées ». Mais je reviens à notre ami Casper. Dans ce sens, il poursuit, je le cite, « Une spiritualité de la communion signifie reconnaître dans les autres le frère et la sœur dans la foi, partager leurs joies et leurs souffrances, percevoir ce à quoi ils aspirent et se préoccuper de leurs besoins. La spiritualité de la communion est la capacité de voir avant tout ce qui est positif dans l'autre et de l'accueillir pour soi-même comme un cadeau de Dieu. Spiritualité de la communion signifie enfin faire de la place aux frères et à la sœur, en portant les fardeaux les uns des autres et en résistant aux tentations de la rivalité, de la méfiance et des jalousies. Et dans une conférence donnée à Berlin en juin 2003, le cardinal Kaspers a cette formule splendide. L'amour sans la vérité est vide, creux, simulation et sans sincérité. C'est une singerie, un flirt qui ne porte pas à conséquence. Mais inversement, la vérité sans amour peut être froide, dure, blessante et repoussante. La vérité et l'amour ne sont pas séparables. Saint Paul nous dit que nous devons faire la vérité dans l'amour. Nous n'avons pas la vérité pour l'asséner comme une claque aux oreilles d'autrui, mais comme un manteau chaud que nous nous aidons mutuellement à revêtir. Je me permets de répéter cette phrase afin qu'elle se grave dans vos cœurs, mes chers frères et sœurs libanais. Nous n'avons pas la vérité pour l'asséner comme une claque aux oreilles d'autrui, mais comme un manteau chaud que nous nous aidons mutuellement à revêtir. » Fin de citation. Puis cette phrase du président du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, résonnez dans vos cœurs, chers frères et sœurs du Liban, comme une espérance folle mais réelle, de croire réellement que votre terre si belle, si embaumée de parfums multiples, si riche d'histoires saintes, dans le Père et Saint Maron, avec tant d'autres saints qui ont fait leur la folie de l'amour en Christ, est comme une terre sainte. C'est une terre de paix. Vous avez à combattre, mais ne vous trompez pas d'ennemi. Il est souvent en nous-mêmes. Battez-vous avec vous-même pour avoir la force de dire avec la force de l'Esprit-Saint « Stop !» à tous ceux qui n'ont pas encore compris que verser le sang ne mène à rien et n'engendre rien d'autre sinon la haine. En conclusion, d'espérance, faisons nôtre cette prière de l'abbé Couturier. J'ai confiance en toi, ô Christ, qui a vaincu le monde. C'est le progrès de l'amour de produire une éperdue confiance en celui qu'on aime. Ma confiance en toi est sans limite, et à juste titre, puisque tu es le Tout-Puissant. Ma confiance en toi, ô Christ, me jette dans ton cœur où je trouve ta prière. Père, qu'il soit un, afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Père, mon unique apaisement. Ma foi ne peut rien me commander de plus que de prier avec toi, en toi, pour qu'arrive ton unité, celle que tu n'as cessé de vouloir, celle que tu poursuis, que tu prépares, celle que tu aurais réalisée depuis longtemps déjà, si tous, tous et moi, avaient été de cristal entre ce qui de la création par le chrétien peut monter vers toi et ce qui de toi, par lui encore, veut descendre au monde. Amen. Chers amis libanais, l'espérance est à la fois don et fille de la volonté. Il en va de même pour la paix à laquelle vous aspirez tellement. Il faut la vouloir, la construire. En ami, en frère, je vous ai esquissé une voie à suivre, celle de la communion, pour que cette paix que vous donne le Christ chaque jour devienne paix pour tout le Liban.
Merci infiniment, Père Patrick, pour vraiment votre présence ici à la radio, mais surtout merci pour ces journées dans notre maison de prière à Banna. Et nous avons pu en effet, excusez-moi, vous apprécier très profondément. Et grâce à votre amour de la vérité, votre amour de Dieu, et nous avons pu vraiment toucher, je dirais, la vérité en vous, et on vous remercie d'être ce que vous dites. Merci pour votre exemple, merci d'être pour nous notre ami, notre frère, notre père, et je dirais, j'irai jusque-là, une icône privilégiée du Seigneur. Merci Père Patrick.
Merci à vous Sœur Brigitte, et je dis surtout merci à tous nos amis libanais.
Je voudrais voir la mer courir sur les rochers, entendre rire le vent et puis aussi voler. Tous les élans du monde animent mon âme comme un ruisseau fugace. En moi coule la grâce. Ô mon Jésus, écoute ma prière, viens habiter mon cœur de ton désir, vivre avec moi le sacrement du meilleur et du pire.
À la recherche de la paix. Un programme de la Voix de la Charité présenté par Sœur Brigitte May, fondatrice de la maison de prière à Banna, au Liban.